Voilà, bonjour à chacun, chacune. Nous venons de terminer, hier soir, la première partie d'une opération que nous avons appelée « Mains ouvertes ». À l'attention des plus démunis de notre ville. Mais peut-être, on peut se poser une question. Et ce matin, on a eu des louanges sur cette action. En quoi notre action peut-elle être différente de celle de Michel Colucci? Coluche. Pour les intimes, avec les Restos du Cœur. En quoi notre action peut-elle être différente de celle de Michael Jackson, à l'origine de USA for Africa? À quoi ou comment notre action peut-elle être différente de celle de Solidarité Internationale? Ce sont des actions dont il faut reconnaître le bien fondé, la valeur, et l'efficacité, n'est-ce pas? Mais nous, dans ce concert, où nous situons-nous? Quelle est la motivation qui va derrière? Et puisque nous travaillons quelque peu ces derniers temps, ou au moins j'ai choisi de travailler un petit peu dans l'Épître aux Corinthiens, un texte, cette semaine, s'est imposé à moi. Et c'est la lettre à l'amour. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Et nous allons voir juste un verset qui a interpellé mon œil et mon attention. 1 Corinthiens 13 commence comme ça, il dit « Si je parle, ou combien, je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la loi jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et le verset 3, « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » C'est intéressant de d'un seul coup lire ce verset, de dire « Je peux donner tous mes biens aux pauvres. » Mais si la motivation qui est derrière n'est pas l'amour pour ces personnes, pas la charité, vous savez, cette charité qui nous fait dire « Oh mon pauvre monsieur, attendez, je dois bien avoir un vieux truc qui traîne. » Mais la charité qui me fait aimer cette personne comme Dieu l'a aimé. Il l'a tant aimé, vous connaissez le texte, qu'il a donné son fils unique. On a parlé la semaine dernière de liberté. Et des frères et sœurs sont montés sur l'estrade pour montrer qu'ils avaient compris cette liberté, qu'ils voulaient repousser cette cage qui les enfermait. Et ils avaient découvert que la porte était ouverte. Pour comprendre l'amour, nous avons besoin de comprendre l'amour de Dieu. Nous, chrétiens, on se dit « Oh, mais moi j'aime Dieu, je comprends Dieu, je sais qui il est. » Mais quand on regarde aux dimensions de cet amour, la première chose qu'on trouve quant à l'amour de Dieu, c'est son coût. Pas le coût ici, le coût financier, le coût de sa personne. Le coût est infini, mes amis. La souffrance que notre Seigneur a dû porter à notre place est terrible. La souffrance et la mort à la croix. Voilà le coût. La force de son amour était si grand qu'il a vaincu notre manque de sainteté. notre dévalorisation. Je ne vaux rien. Après tout, je ne vaux rien sans Christ. Est-ce que sans Christ, nous valons rien? Tiens, c'est une question ce matin. Alors, le verset de Jean 3,16 ne vaudrait plus rien. Parce qu'il dit que devant Christ, nous avons une valeur. Et qu'il veut nous donner cette pleine valeur. Mais c'est en Christ. Donc, nous avons, et les hommes et les femmes qui sont autour de nous ont une valeur afin qu'ils trouvent l'amour de Dieu, mes amis. Le bénéfice de son amour était aussi grand que tout ce que Dieu possède sur la terre a été mis à notre disposition. Wow. Nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu. Nous comprenons le coût, nous comprenons la force, nous comprenons le bénéfice. Et de plus, la Bible dit par l'Épître aux Romains au chapitre 8 que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est intéressant quand on parle de cette épître que Paul a écrit sur Corinthiens, aux Corinthiens qui, je vous rappelle, se divisaient, qui voulaient même se mettre plutôt du bord d'un prédicateur plutôt que du bord d'un autre, qui pratiquaient des relations horribles, qui se faisaient des procès les uns les autres. Et Paul leur dit quoi ? Il leur dit, mais regardez Christ, mes amis. Rien ne peut nous séparer de son amour. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Il a donné librement, sans contrainte. Personne n'a pris la vie de Christ. Il nous aime et nous pouvons, j'emploie un mot ici, thésauriser, prendre tout l'amour de Christ. Est-ce que vous êtes déjà aperçu que Christ avait en réserve tellement de choses pour nous? Et on l'a vu hier, et on le voit de temps en temps, mais est-ce qu'on le voit tous les jours? Est-ce que dans notre quotidien, dans notre brouillard, dans nos grèves de train, dans nos bouchons, dans les pannes d'EDF, dans les coupures d'eau, dans les factures qui tombent abondamment dans les boîtes aux lettres, nous voyons l'amour de Dieu? Nous pouvons recevoir, nous pouvons garder, nous pouvons développer l'amour du Dieu et nous pouvons même le faire fructifier. Fructifier. Dieu nous aime bien plus que nous pouvons comprendre. Voilà pour situer l'amour de Dieu. Si on ne comprend pas l'amour de Dieu, alors 1 Corinthiens 13 sonne juste, pour rien. Si je n'ai pas l'amour, alors tout ça me sert à rien. Si je n'ai pas Christ, cela ne me sert à rien. Oui, je peux faire du bien aux autres. Mais la longévité, la résonance dans l'éternité, nous pouvons comprendre l'amour de Dieu. Nous devons comprendre. C'est la prière de l'apôtre Paul. Si vous voulez tourner les pages de l'Écriture dans l'Épître aux Éphésiens. Ce matin, on va regarder les textes qui résonnent par rapport à 1 Corinthiens 13. Pour qu'on puisse comprendre 1 Corinthiens 13, il y a des choses que nous avons besoin de revenir. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Éphésiens chapitre 3, on va reprendre un petit peu plus haut pour que vous puissiez comprendre le texte. À cause de cela, à partir du verset 14, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux, sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Voilà l'œuvre qui est devant nous. Paul prie que les Éphésiens arrivent à cette pleine connaissance. Et on n'a pas besoin de faire un séminaire biblique pendant des années pour arriver là. C'est à la portée des hommes et des femmes, de ses enfants. C'est notre réserve. Mais il faut se mettre à chercher, n'est-ce pas? Alors, peut-être vous dites, mais il va où Jean-Claude avec ça? Comment? On va poser une première question. Comment le fait d'aimer Dieu nous amène à aimer les autres? Comment le fait d'aimer Dieu nous amène à aimer les autres? Moi, je suis toujours surpris quand je lis le livre des Actes, de voir combien les hommes et les femmes passaient de temps ensemble, passaient de temps au temple, passaient de temps à prier, et comment ils gagnaient le peuple. Parce qu'ils vivaient dans ce peuple. Parce qu'en fait, leur relation avec les gens à l'extérieur avait changé. Ils n'étaient pas enfermés entre quatre murs, mais ils vivaient. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Peut-être pour tirer le trait sur ce qu'on essaye de montrer. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse, déteste son frère, parenthèse, ou sa sœur, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Waouh! Il fait mal ce texte, hein? Il fait mal. On se demande pourquoi l'apôtre Jean a écrit ça, hein? Jean, c'est celui qui veut nous apprendre à aimer. Jean, c'est celui qui a dit que Dieu était amour. Et il voulait tellement que ses auditeurs puissent comprendre l'amour de Dieu. Tout autant que Paul. Jean avait ce fardeau. Par quelle opération, par quelle transformation sommes-nous rendus capables de transmettre l'amour de Dieu aux autres? Alors, on va trouver la réponse dans l'Épître aux Galates. Et la première réponse qu'on va trouver, c'est le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, juste avant Éphésiens. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Quant à nous, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée, car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais une foi agissante, une foi qui opère par l'amour, une foi en œuvre, une foi qui bouge, pas qui bouge juste en tapant des mains, mes amis, une foi qui bouge parce que quelque part, l'amour de Dieu nous pousse. L'amour est un verbe actif, un verbe qui nous amène à transmettre, à montrer, à démontrer ce que Dieu fait. Au verset 13, un petit peu plus loin, il dit « Mes frères, vous avez été à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Par amour, faites-vous plutôt serviteurs. » D'autres versions ont traduit le mot direct « esclave, doulos ». les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, et on l'a vu dans 1 Corinthiens 7, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. La foi, l'esprit, voilà la réponse. Voilà la réponse, mes amis. Le Saint-Esprit est la pièce maîtresse au travers de notre foi. Elle est la clé. Le fruit que l'Esprit nous donne exprime la réalité de notre foi. Dans cet épître aux Galates, toujours au chapitre 5, un peu plus loin, au verset 22, Paul explicite ce qu'il est en train de dire. Il dit, quant aux fruits de l'esprit, et là, je n'ai pas cité les fruits de la chair, là, je parle du fruit de l'esprit. Il dit, ça commence par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur. C'est intéressant. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Comment est-ce que nous manifestons que nous avons l'esprit de Dieu ? Par l'amour ! Non ? C'est pas moi qui le dis, c'est Galates là. C'est Galates, c'est Jean. C'est la Bible, la parole de Dieu. La manifestation de l'esprit en nous, mes amis, c'est que nous avons compris quel était l'amour de Dieu pour nous. Et que nous voulons communiquer cet amour aux autres, et que, par égard, nous aimons notre prochain, comme nous-mêmes. Même si je donnais mon corps à la science, même si je donnais tous mes biens aux pauvres. J'ai entendu cette histoire récemment qu'un chrétien, un chef d'entreprise au Canada, multimillionnaire, a été touché dans son cœur en voyant la pauvreté dans sa ville, a été touché dans son cœur en voyant la pauvreté qui était autour de lui. Alors il a vendu son entreprise. Il a récupéré tous les bénéfices. Et il l'a donné aux pauvres de la ville. Lui et sa famille vivent maintenant dans une zone difficile de la ville. Il a un emploi séculier où il travaille péniblement. Et quand on lui dit, mais peut-être, tu n'aurais pas dû, il dit, je l'ai fait parce que j'aime Dieu. Et je ne regrette rien. Alors tous les hommes d'affaires chrétiens ne sont pas obligés de faire la même chose. Et nous tous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas obligés de nous mettre dans la misère pour que les autres vivent bien. Mais il y a un principe. Il y a un principe. Si nous n'aimons pas ceux qui sont là, si nous n'aimons même pas ceux qui sont dans cette salle, alors, quelle est la manifestation de l'esprit en nous ? Ah, mais moi je sais faire ceci, oui, mais il manque quelque chose. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les manifestations des différents dons listés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Là, on parle du fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la bénédiction. C'est un fruit. Ce n'est pas une graine. Et ça commence par l'amour, quel est le plus grand commandement ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quel est le second qui lui ressemble ? Tu aimeras ton prochain. Waouh ! Ça nous rappelle quelque chose. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça fait du bien de s'arrêter un instant, non ? De reconsidérer, mais... Et moi ? Oh, je sais faire tellement de choses. Je suis doué dans tellement de domaines. Mais je ne suis pas capable d'aimer. Je ne peux pas aimer les gens qui sont dans l'église. Je ne peux pas aimer les frères et sœurs des autres communautés. Je ne peux pas aimer les gens au boulot. Les gens dans le train, ils m'énervent. Parce que nous avons besoin de réfléchir. Être aimé par Dieu, aimer les autres, voilà le lien. L'amour se développe, l'amour pousse, l'amour mature. Et Dieu est glorifié dans nos vies et dans celles des autres. La vie chrétienne n'est pas faite d'exploits qui me glorifient, de gestes quotidiens qui montrent Dieu. La source, c'est Dieu. La ressource, les ressources appartiennent à Dieu, elles sont en lui. Nous n'aimons pas naturellement. Regardez, c'est intéressant. Caïn et Abel. Vous vous rappelez ? Deux frères qui s'aimaient d'un amour inaltérable. Certainement, les parents leur avaient dit « Ayez de la haine les uns contre les autres. » La loi n'était pas encore donnée, non. Qu'est-il arrivé ? Jacob et Ésaü. L'apôtre Paul. C'est intéressant de réfléchir à l'apôtre Paul quelques instants. Cet homme qui nous a donné tellement de littérature sur l'amour, qui a été capable d'écrire l'épître à l'amour, et qui était le plus grand tueur à gages de l'époque. Il a fallu que Dieu l'arrête, pour que son cœur change, pour qu'il puisse dire aux Corinthiens « Je vous aime de l'amour d'une mère ». Aimer, c'est pas quelque chose de simple. Et puis vous rappelez, un contrôleur d'impôts. Il y en a deux dans la Bible. Hein. Il y en a un, il était tout petit, et heureusement il avait des sycomores, des arbres un peu gros sur lesquels il pouvait monter. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, alors je lui rends. Et si je l'ai volé, je lui rends quatre fois. Manifestation de l'amour. Quand Jésus vient le voir, il est pécheur. Quand Jésus finalement s'en va de chez lui, il est sauvé. L'amour n'est pas en nous. Ce n'est pas le fruit de notre personnalité. Ce ne sont pas nos chromosomes, notre ADN. C'est Dieu qui est amour. Nous avons besoin de comprendre que pour aimer, nous avons besoin de Dieu. Souvent, la phrase prononcée « Je t'aime » est sous-titrée par « J'ai besoin de toi ». Non ? Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais le seul dans le groupe de jeunes qui avait une voiture. Tout le monde m'aimait ! Les garçons, les filles, oh Jean-Claude, t'es extraordinaire, oh, t'es un mec bien. J'ai un accident de voiture, mes copains ont disparu. Jusqu'à ce que je fasse réparer ma voiture. On t'aime. Quant à ta voiture. Merci mon frère. Non ? Des fois quand j'entends de la part de personne, oh, je t'aime bien, t'as besoin de quoi ? Ou quand je vais voir quelqu'un, oh moi je t'aime bien, hein. Quel service tu veux que je te rende ? Dieu ne nous rend pas des services, mes amis. Dieu ne fait pas des échanges avec nous, donnant, donnant. Dieu nous a aimés, point. Nous étions haïssables, méchants, rebelles, ennemis. On était aussi pires que les gens qui nous entourent, mes amis, qui nous entourent, n'est-ce pas ? Et Dieu nous a aimés. Il n'a pas attendu, bon, si vous êtes gentil, je vais finir par vous aimer. Mais il a dit, vous êtes tellement méchant, tellement rebelle, vous êtes tellement de haine dans votre cœur que je vais vous aimer. Ouh, tu vas pas faire ça. Pas chiche. Alors, le deuxième point, si le Saint-Esprit est là avec le fruit pour l'amour, le point qui vient là, c'est la foi. Galates chapitre 5, verset 6, « Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui agit. Si la foi venait par la circoncision, par les œuvres, alors on le saurait. » Mais Paul parle à ces Galates qui avaient tellement bien commencé, qui avait répondu à l'appel de Dieu, qui avait répondu au message de Dieu, et qui était retombé dans tous les travers, qui s'était laissé prendre. Ce n'est pas notre mérite. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. La foi, c'est croire que nous sommes pardonnés. Mais la foi, c'est aussi accepter que nous sommes pardonnés. Vous savez que ça, c'est le plus difficile. Quand on a blessé quelqu'un, quand on a offensé quelqu'un, et qu'on vient lui dire, écoute, pardon. Bon, ok, t'es pardonné. À chaque fois qu'on va faire un truc, enfin, tu me pardonnes toujours. Oui, si t'arrêtes. La foi. La foi, c'est vivre comme si nous étions pardonnés. La foi, c'est pardonner comme nous sommes pardonnés. N'est-ce pas? C'est intéressant parce que j'imagine nos prières, vous savez, Matthieu 6. Seigneur, pardonne-nous comme moi, je ne pardonne pas aux autres. Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tiens, c'est bien, on le connaît le texte, hein? Mais la pratique est plus dure, hein? Enfin, Seigneur, là, t'as vu, ils poussent quand même, hein? Ils exagèrent. Moi, j'ai pas fait tout ça, hein? C'était pire. Bon. L'amour ne mérite pas le salut, mais l'amour prouve le salut. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence qu'hier, dans ce centre, dans ces quatre murs, nous avons voulu faire un effort pour que la ville nous voie? Non, pas qu'il nous voie, mais qu'il voie Dieu. Mais ça coûte, n'est-ce pas? Ça coûte de l'énergie. Ça coûte du temps. Alors, si d'un côté il y a la foi, si de l'autre côté il y a l'esprit, comment les deux fonctionnent? Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou est-ce par là prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Toutefois, si toutefois c'est en vain, celui, regardez bien le verset 5, celui qui vous accorde l'esprit, qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Voilà l'ensemble que Dieu a décidé de choisir. La foi, l'esprit. Voilà les paroles de Christ à Saul de Tarse, Galates 3, 17. Je t'ai pris au milieu de ce peuple des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière du pouvoir de Satan, vers Dieu, qu'ils reçoivent le pardon des péchés, un héritage avec ceux qui sont sanctifiés avec moi. Voilà l'œuvre de Dieu. L'amour de Dieu nous libère, l'amour de Dieu nous conduit, son esprit nous aide à avancer dans l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, pas la haine. La haine, c'est cité juste avant dans les fruits de la chair, les œuvres de la chair. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Regardez bien, 2 Thessaloniciens 2, 13, s'il vous plaît. Suivez avec moi. Regardez bien, comment Paul rattache la foi et l'esprit. Mais nous devons sans cesse, tout le monde y est, de Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est important. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous purifie et par le moyen de votre foi en la vérité. Par le moyen de l'Esprit, par la foi. La foi est l'action et l'Esprit au travail. Si l'amour est le fruit de l'Esprit, Galates 5, l'amour est le fruit de la foi. À l'école de Dieu. Cherchons à être diplômés de la foi. Alors l'amour fera partie des accessites. Celui qui accorde l'Esprit et qui opère des miracles. On a des témoignages de miracles, n'est-ce pas? Chaque dimanche. Dieu guérit, Dieu donne des diplômes, Dieu répare les voitures, Dieu nous garde. Dieu obtient nos diplômes. Dieu parle au cœur des professeurs. Dieu répare les erreurs des dossiers qui s'égarent. Qui est-ce qui fait ça? Nous? Dieu. Par son esprit, nous convainc que c'est lui qui le fait. Alors nous pouvons aimer sans limite. Avons-nous reçu le Saint-Esprit par les œuvres de la loi ou par la foi? Par les œuvres que nous voudrions mettre en place? Hier, nous n'avons fait que ce que Dieu demandait. Collecter quelque chose pour donner aux autres. Pas faire de profit. Pas essayer de garder quelque chose pour nous faire plaisir. Mais pour que ceux du dehors puissent être touchés par l'amour de Dieu. Pas le nôtre. Pas le nôtre. La foi se développe avec le Saint-Esprit. Celui qui accorde et opère. C'est intéressant parce que dans notre français, celui qui nous donne est celui qui opère. On a l'impression que c'est un présent, n'est-ce pas? Mais c'est un présent qui se développe. C'est un présent actif, c'est un présent qui ne s'arrête pas à l'instant T. Ah, ça y est, j'ai reçu Dieu, voilà, c'est terminé. Non. C'est quelque chose qui nous fait grandir, afin que vous croissiez, afin que vous grandissiez, afin que vous soyez à maturité. Nous sommes en chantier, mes amis. Des fois, on est en chantier, et parfois, on est en chantier. Mais le chantier, ça ne veut pas dire le désordre. Nous sommes en train de construire l'habitation de Dieu. Nous sommes son œuvre, son ouvrage. Il construit sa maison avec des pierres vivantes, pas des pierres mortes. Il y a deux hommes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dont on dit qu'ils étaient pleins d'esprit et pleins de foi. Regardez dans Actes 6. Verset 5. Les dames, le groupe de dames de l'époque. Gisèle et Becky n'étaient pas là encore. C'était plein. Parce qu'on les délaissait. Parce qu'on ne s'occupait pas d'elles. Et on demande aux apôtres, mais il faut vous occuper de nous. Alors, les apôtres disent, mais nous avons besoin de nous concentrer sur la parole et la prière. Pour pouvoir vous éduquer. Alors choisissez parmi vous cet homme rempli d'Esprit Saint, etc. Et regardez verset 5, ce discours plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. C'est intéressant que on a une liste de personnes et on dit d'eux qu'ils sont rempli d'Esprit Saint. Est-ce que ce sont des gens qui marchent sur l'eau? Est-ce que ce sont des gens qui ne prennent plus maintenant leur nourriture normalement, qui passent au travers des murs? Non. Ce sont des hommes qui, au travers de la communauté, sont distingués des autres parce qu'ils vivent une vie chrétienne authentique, parce qu'ils pratiquent en premier commandement aimer Dieu, deuxième commandement aimer les autres. c'est pas des hommes extraordinaires? On sait comment on va terminer Philippe. Par la suite. Et regardez bien dans le verset 22. J'ai dû me tromper dans la référence. Hein. Alors, je vais vous retrouver la référence. Parce que là, j'ai copié le verset sans copier la référence. Ah, ça va être 11. Voilà, ça va être acte 11. Excusez-moi. Cette erreur. Je pense que c'est acte 11. On va vérifier. Non. C'est 22. Si, c'est ça. Voilà. Acte 6, 20, acte 11, 22. Le bruit en parvint aux oreilles. Jérusalem, l'église de Jérusalem, pour ceux qui connaissent pas trop ce chapitre, l'église de Jérusalem a entendu que les hommes et les femmes qui quittaient la ville de Jérusalem à cause de la persécution, donc ils étaient persécutés à cause de leur foi, chassés de la ville, tout en marchant, ils témoignaient. Il parlait de Dieu. Il disait comment Dieu avait fait des miracles dans la ville. Et finalement, des communautés naissent. Et il y a une communauté qui naît à bien des kilomètres de là, à Antioche. Et donc, ça arrive aux oreilles de l'église de Jérusalem. Verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, et regardez verset 24, « Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » Est-ce que ça nous paraît tellement compliqué d'être des Philippe ou d'être des Barnabas? Ou d'être dans la liste là? Est-ce que c'est pour des surhommes, des surfemmes? C'est pour chacun d'entre nous, mes amis. Si nous aimons Dieu, si nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, développer ce fruit, alors nous serons vus comme des hommes et des femmes, remplis d'Esprit Saint, capables d'aimer. Notre monde offre la violence. Une jeune fille, cette semaine, est décédée par la violence d'une autre. La vie n'a plus de prix aux yeux des autres. Mais pour Dieu, notre vie est à grand prix. Il a donné la sienne afin que nous ayons la vie en Christ. Est-ce que notre foi est venue par l'obéissance à la loi? Vous savez, une chose extraordinaire, c'est que Abraham, cet homme à qui Dieu a dit « Quitte ton pays et va voir dans le pays que je te montrerai. » Il est dit extraordinairement que c'est un homme de foi. Il est cité dans Hébreux 11 comme un homme de foi, le père des croyants. La loi n'existait pas encore. La loi n'avait pas encore été promulguée, Moïse n'était encore pas là, le mont Sinaï n'avait pas encore reçu des doigts de Dieu, la loi. Et cet homme a obéi à Dieu. Est-ce qu'on pourrait être ces hommes et ces femmes, prêts à obéir à Dieu, mais déjà à laisser l'amour de Dieu, le fruit de l'esprit, l'amour de Dieu? Si je nettoie cette salle, si je viens à quelque action et que je n'ai pas d'amour, qu'est-ce qui me motive? La loi? Le « m'as-tu vu, je suis là » ou l'amour de Dieu? L'amour de Dieu a renversé le monde, mes amis. Il a permis que aujourd'hui, 25 novembre, si je ne me trompe pas, 2012, nous soyons dans cette salle. Alors, question. Avons-nous cet esprit en nous? Cet esprit qui se manifeste par l'amour. Matthieu chapitre 5, verset 23 nous dit que si, quand nous présentons une offrande à Dieu, si grande soit-elle, si nous nous rappelons que quelqu'un a quelque chose contre nous, alors on va faire des efforts pour se réconcilier. La Bible dit que si nous avons des problèmes les uns avec les autres, alors nous devons pardonner. Nous supporter les uns les autres. Et je reprends le texte de tout à l'heure. Si vous vous mordez les uns les autres, vous serez détruits les uns par les autres. Est-ce que nous pourrions être ensemble, encore plus, des hommes et des femmes remplis d'Esprit Saint, remplis d'amour. D'abord les uns pour les autres, c'est vrai. Mais pour cette ville de Vigneux qui en a tant besoin. Les hommes et les femmes ont autant droit à l'amour que nous. Dieu, par grâce, nous a donné cet amour. Alors j'espère que cette première partie de mains ouvertes que nous avons franchie hier se traduise par la vie dans des hommes et des femmes de la ville de Vigneux, d'une manière différente, non pas parce qu'ils nous verront, mais parce qu'ils verront Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Te remercier parce que c'est vrai, comme nous l'avons commencé dans ce message, nous voulons regarder à ton amour. Regarder, pas simplement à ta personne, mais regarder à toutes ces dimensions. Nous voulons regarder le coût de cet amour. Nous voulons regarder la force de cet amour. Nous voulons regarder le bénéfice de cet amour. Nous voulons nous rappeler, Père, une fois encore, que rien ne peut nous séparer de cet amour pour toi. Que nous sommes tes héritiers, que c'est sans contrainte que tu nous as donné, que personne n'a volé ton corps, et que tu nous aimes tellement que nous pouvons recevoir, garder, développer, fructifier cet amour, pour que la ville de Vigneux te voie, pour que ce département de l'Essonne soit arrosé par ton amour. Ô Seigneur, ce matin, ce n'est pas un miracle que nous demandons, mais c'est simplement la transformation de ce fruit de l'Esprit dans notre vie. Que ça ne soit pas quelque chose qui soit caché au travers de nous. Ton amour, tu ne l'as pas caché pour nous. Mais que ça soit quelque chose de bien visible. Que si nous avons de la haine, tu nous l'as dit tout à l'heure, si nous avons de la haine les uns pour les autres, nous allons nous détruire les uns les autres. Mais toi, face à la haine, tu as offert l'amour. Et Seigneur, ce matin, nous voulons offrir l'amour à ceux qui peut-être n'ont jamais trouvé cet amour. À ceux qui peut-être ont des problèmes, les uns avec les autres, ou peut-être avec nous. Seigneur, c'est pour ça que tu es mort. Parce que nous étions incapables de régler nos problèmes. Incapables de faire la différence. Nous ne voulons pas être différents pour être différents, Père. Nous voulons être différents parce que toi, tu es un Dieu différent. Tu es le seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu vrai. Le Dieu qui nous a tellement aimés. Alors ce matin, je veux juste prier pour celles et ceux qui ont peut-être du mal dans leur vie à exprimer l'amour. Qui peut-être se disent « Oh, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. » J'ai essayé d'aimer mon conjoint, mes enfants, mes amis, mais ceux qui m'emploient, mais je n'arrive pas. Peut-être des frères, des sœurs autour de nous, avec qui on a du mal à s'entendre. On n'irait pas passer nos vacances ensemble. Mais Seigneur, donne-nous ce matin de revêtir cet amour. Que vraiment le fruit de l'Esprit en nous jaillisse. Et que ça ne soit pas des mots, mais que ça soit des faits. Que ça soit une foi agissante par l'Esprit. Alors peut-être ce matin, vous dites, c'est vrai. Peut-être j'ai couru après beaucoup de choses, peut-être je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Et là où vous êtes, vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi pour exprimer cet amour. C'est toi qui es amour. Et cet amour, tu veux le mettre dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je t'ai accepté, Seigneur, mais je n'ai pas tout compris. Je veux aimer comme toi, tu m'as aimé. Je ne veux pas juste que ce soit la période de Noël, mais je veux que ce soit 365 jours. Chaque jour, chaque instant, là où tu me mets, revêt-moi de ton amour. Alors, c'est tout simplement, vous êtes là. Vous vous posez la question, mais est-ce que Dieu peut m'aider aujourd'hui? Il vous dit, c'est aujourd'hui. Et comme à Zachée, il dit, viens, descends, je viens chez toi aujourd'hui. Est-ce que ce matin, vous aimeriez demander à Dieu cet amour pour votre vie, pour résoudre vos difficultés, vos problèmes, vos conflits? Là où vous êtes, tout simplement, vous levez la main. Je ne vais pas vous demander de monter ce matin, mais simplement là, ce grand amour que Dieu est prêt à nous donner. Y a-t-il quelqu'un? Oui? 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 Vous savez, quand vous levez la main, n'ayez pas de crainte. C'est Dieu qui vous voit. Et Dieu est heureux que vous preniez une décision. Ce n'est pas une décision cachée. C'est Dieu qui vous parle, tout simplement. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle, pour que Dieu lui donne ce plus beau cadeau, le plus beau cadeau que Dieu ait pu donner au monde, l'amour. Y a-t-il encore quelqu'un? Eh bien, Seigneur, tu vois les mains qui sont montées vers toi ce matin, les mains qui crient, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'arrive pas à aimer par moi. Je n'arrive plus, je suis peut-être découragé, je suis usé. Je n'ai plus d'idées, mais Seigneur, toi, tu vas m'aider. Alors Seigneur, bénis ses frères, bénis ses sœurs, fais-leur du bien. Et Seigneur, que ta communauté tout entière ait vraiment les mains ouvertes vers ce monde qui nous entoure. Que nous soyons capables, Seigneur, d'aimer avec la bonne motivation, avec la bonne façon, afin que toi, tu sois agissant dans la vie des gens qui nous toucheront, que nous toucherons, Seigneur, et qu'ils puissent venir à toi. Merci en tout cas, parce que Seigneur, tu as une parole qui ne revient jamais sans effet. Une parole qui nous fait tellement de bien. Au nom de Jésus. Amen.